بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité ce soir de nous réunir pour étudier le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc continuer pour la troisième fois avec le surat al-Mutaffifin. Et on avait vu la dernière fois la mise en garde dans le surat concernant les personnes qui font preuve de fraude par rapport au sens qu'on avait expliqué à deux reprises. Et la mise en garde, on avait vu qu'elle passe par trois étapes. La première étape, c'est qu'Allah Azza wa Jal rappelle à chaque personne hein, qui fait ce péché, n'oubliez pas qu'un jour vous serez ressuscité. C'est comme si que l'être humain parfois a tendance à oublier qu'il y a un jour qui s'appelle Yawm al-Ba'ath, le jour de la résurrection. La deuxième mise en garde, c'est lorsqu'Allah Azza wa Jal rappelle que ce jour est un jour terrible. Liyawmin azim. On avait expliqué pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise le qualificatif, le sifa de azim pour ce jour. Et on avait vu quelles seront les difficultés de l'au-delà. Et on s'était juste arrêté sur la première étape de la résurrection. C'est lorsque les gens sont ressuscités. Avant même qu'il y ait remise, délivrée, avant même qu'il y ait le passage près du tribunal d'Allah, avant même qu'il y ait le passage près de la balance, le mizan, ou qu'il y ait à franchir donc le sirat, le pont suspendu sur l'enfer, avant toutes ces étapes, uniquement l'étape la plus passive, hein. Je dis passif, mais c'est passif, personne ne fait rien, mais il y a tellement de choses qu'on subit, voilà, on subit sans pouvoir faire quoi que ce soit. Comme d'un hadith est dit que feriez-vous, ô musulmans, alors que pendant, je ne sais plus le nombre d'années qui était cité dans le hadith de la dernière fois, 40 ou 50 années, où vous allez rester donc debout avec le soleil au-dessus de vos têtes en attendant l'ordre d'Allah, et pendant toutes ces années, Allah ne donne aucun ordre. Pendant ces 40 années, si je ne me trompe pas, c'était le chiffre 40 qu'il y avait dans le hadith de la dernière fois. Pendant ces 40 années, Allah Azza wa Jal n'envoie aucun message à l'humanité et Allah ne donne aucun ordre aux anges ni aux êtres humains. Et les gens restent immobiles dans l'attente. Mais lorsqu'ils sont immobiles dans l'attente, ce n'est pas une attente passive, comme j'ai dit tout à l'heure, où on attend que le temps passe. Et là, wallah, c'est une attente dans le azab, dans une... On ne va pas dire que c'est un châtiment de l'enfer, mais c'est le châtiment de l'au-delà. C'est le soleil au-dessus de la tête de chaque personne. Homme, femme, grand, petit, vieux, enfant, tout le monde. Et on avait vu que ce soleil sera plus ou moins accablant en fonction de nos a'mal, de nos actions. La personne qui avait fait beaucoup de péchés, hein, il aura plus de difficultés le jour des comptes. Le hadith qu'on a vu dans Tafsir ibn Kathir la dernière fois, c'est qu'il y aura des gens qui auront la transpiration jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la poitrine, d'autres seront noyés dans le araq de la transpiration, et ça c'est par rapport au péché. Mais là aussi les ulama de Aqida disent que voyez la relation directe qu'il y a entre nos actes et notre destin. La relation directe qu'il y a entre nos actions et notre destin de ce dunya, mais également notre destinée, et c'est ça le plus important, notre destinée dans l'au-delà. Une personne qui se retient de le haram et qui se donne à fond dans les obligations, même si les obligations comportent des difficultés, comportent des contraintes, mais la personne essaie d'obéir au mieux aux ordres d'Allah et essaie de s'éloigner au mieux des ordres d'Allah, même si dans ce monde elle a subi quelques complications, quelques difficultés. On s'est parfois moqué de la personne, on a dit ouais, comment lui tout d'un coup il commence à garder la barbe, là il met son pantalon au-dessus de la cheville, là il va à la mosquée, il est en train de devenir un fondamentaliste, il est en train de faire ça. Il y a parfois des colibris, comme on dit, des critiques qui émanent parfois des proches, parfois ça peut être des membres de la famille, et c'est ça le plus blessant. parfois ça peut être du voisinage, parfois ça peut être des collègues du bureau, parfois ça peut être des gens de la rue qui vous font des remarques désobligeantes, qui vexent, qui blessent un peu le cœur du musulman, mais il le fait pour Allah. Il le fait uniquement pour Allah. Parce que lorsqu'un jeune, et là je donne l'exemple du jeune, mais ça peut être une personne plus âgée, quand quelqu'un décide de retourner dans le droit chemin, il essaie de se raccrocher au dîn d'Allah, et il essaie tout d'abord de soigner son apparence pour être comme comme la sunna du prophète, concernant la barbe, concernant les vêtements également, il fait en sorte de ne pas laisser son pantalon dessous des chevilles. Mais là, il y a des gens qui vont le critiquer, d'accord? Et il le fait pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il met en pratique la sunna qu'il va avoir un chèque à la fin du mois, ou il va avoir un RSA, un revenu spécial pour la sunna, RSS, revenu spécial sunna. Non, il n'y a pas tout ça. Il le fait pour Allah. Il le fait uniquement parce que il veut imiter un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui le modèle. Le modèle de l'apparence physique, le modèle de l'akhlaq. Et celui qui suit ce modèle, Allah est content et satisfait de lui. Mais cette personne qui essaie de rester ferme de la sunna pour Allah, il subit certes quelques difficultés, quelques reproches, quelques moqueries, parfois de la part des ignorants, des juhals de ce dunya, mais le jour des comptes, cette personne sera agréablement surprise que inshallah il se retrouve avec, subhanallah, j'allais dire un confort, mais il se retrouve épargné des difficultés de cette étape. Quand il va voir des gens qui sont en train de se noyer de la transpiration, en train de souffrir de la chaleur du jahannam, dont les portes seront ouvertes à cette étape de l'enfer, à cette étape de l'au-delà, et du soleil qui sera, comme on l'a expliqué la dernière fois, et que lui, alhamdoulilah, il ne souffre pas de ça, c'est là qu'il va commencer. Là, il commence à apprécier son sacrifice de ce dunya. Il commence à voir les premiers fruits de son mujahada, de ses efforts dans ce dunya. Et donc, je vous donnerai un exemple. Si quelqu'un veut enregistrer avec ce portable, il faut mettre en mode avion. Si on met en mode avion, quelqu'un vous appelle, ça ne sonne pas. D'accord ? Normalement, sur les iPhones, il y a l'option mode avion. Alors, je connais un jeune, Allahu Akbar, c'est de ma génération. Ma génération, on a passé le bac en 80... Allahu Akbar, ça nous fait un peu vieux, 96, 97 à peu près. Ouais. Jeune de cette génération, jeune de bonne famille. De bonne famille, de alhamdoulilah, qui était vraiment éloigné du dîn. Qui était éloigné. Mais éloigné ne vient pas la salat et tout ce qu'il y a de mauvais. C'est-à-dire les fitnas des jeunes. Les fitnas des jeunes, ça ne date pas de cette génération, ça date de plusieurs générations. On change de micro ? Il fait des ordres. Bien sûr, il fait des ordres. Et donc ce jeune, alhamdoulilah, du jour au lendemain, il a connu un changement dans sa vie. Il a décidé de se rapprocher d'Allah. Et moi, j'étais au lycée, j'étais agréablement surpris de voir ce jeune qui, comme je vous dis, physiquement, il était grand, il était assez costaud, il avait tout pour séduire, il avait tout pour plaire. Et, alhamdoulilah, du jour au lendemain, il a commencé à mettre son pantalon au-dessus de la cheville. Chose qui n'est pas facile. Quand vous êtes au lycée, vous mettez un pantalon jean, un t-shirt ou autre chose, vous montez le pantalon au-dessus de la cheville. Qu'est-ce que les gens disent tout de suite? Ça fait, ça saute à rivière. Ça, c'est la remarque typique, ça, d'accord? Mais voilà, on se moquait de lui. Et la barbe. Et en plus, quand sa barbe poussait, c'était pas très, 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 très ordonné aussi. Mais il voulait, il restait ferme de la sunna, il voulait le faire. Et c'était admirable. Moi qui, alhamdoulilah, nous avons gardé la barbe déjà, et on connaissait le parcours de ce jeune homme, d'où il venait, dans quel ahwal, dans quelle situation il était, et comment il a fait un revirement, il est venu, subhanallah, dans le din, avec, je ne dis pas que la barbe, le pantalon, présence de salat, des cinq namaz et tout, bien sûr, et avec ça, ce qui s'apparente à l'extérieur du musulman, il était dans le droit chemin, alhamdoulilah, mais il a subi des critiques, comme on l'a dit tout à l'heure, quand ça vient de la famille. Certains membres de la famille qui n'étaient pas très religieux, certains membres de sa famille qui n'étaient pas très très pratiquants, ils sont mis à se moquer de lui, tellement moqués qu'il a décidé de tout abandonner. Raser la barbe, il a retrouvé sa vie d'avant, et depuis, il a suivi un parcours totalement différent, alors qu'il était en train de prendre l'ascendant. Il était en train de remonter dans le iman, dans les a'mal, il s'éloignait des péchés, mais quand il a vu que sa propre famille se moquait de lui, il a tout abandonné. Il a plongé, mais plongé jusqu'à un point où vous n'imaginez pas. Plongé jusqu'à la pire des étapes. Et là je me dis, Allah Akbar, ces personnes-là qui n'ont pas su l'encourager et qui au contraire se sont moquées de lui, comme parfois dans la vie, vous trouvez des gens qui sont des motifs de guider pour vous, de hidayah, par une parole, par un discours ou par un comportement. Ben, vous voyez une lumière, vous, soit que la personne n'est pas musulmane et en voyant ce comportement ou en entendant ces paroles, la personne se convertit, ou alors quelqu'un est dans la religion mais pas trop pratiquant, il entend quelque chose et il revient vers le droit chemin. C'est des gens qu'Allah a mis sur votre chemin pour vous guider. Mais autant parfois, Shaitan, il a ses acolytes également. Il a des gens qui font le mauvais travail et par une moquerie, on a dit si la moquerie venait des amis, c'est pas grave. Il en a subi, il est passé dessus. Mais quand c'est venu de ses proches, de son sang, là la personne était tellement, ce jeune était tellement chagriné qu'il a décidé de tout abandonner, il s'est éloigné et jusqu'à maintenant, il n'est plus jamais revenu sur le droit chemin. Jusqu'à maintenant, il n'est pas revenu sur le droit chemin. Et il y a une lourde responsabilité pour les personnes hein, qui se moquent d'une personne qui essaie de pratiquer la religion. Donc, pour revenir au sujet du jour, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a qualifié ce jour de la résurrection comme étant Yawmun Azim ? Parce que c'est un jour de difficulté où tout le monde va subir des difficultés. Et on avait vu qu'il y a quand même des exceptions et la plus belle des exceptions, ce sont les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour des comptes. Ce seront les hommes les plus heureux. Ils n'ont pas fait HEC forcément, ils n'ont pas fait l'ENA, ils n'ont pas tel diplôme, ils n'ont pas un compte en Suisse, ils n'ont pas telle voiture, là Allah. Mais ils avaient des qualités dans leur iman qui fait qu'Allah les a acceptés. Allah a agréé leur parcours de ce dunya. Et lorsqu'ils sont ressuscités le jour des comptes, ils se retrouvent invités en first class, en business class, dans le salon VIP d'Emirates, sous l'ombre du Arsh al-Rahman, sous l'ombre du trône d'Allah. Il y a des fois que vous entrez dans l'avion, hein, vous prenez l'avion à Dubaï, pour aller Maurice, pour aller Dubaï, pour aller Jeddah, pour aller faire l'Umrah, vous passez, hein, en plus vous prenez le grand A380, vous passez d'abord, il vous faut entrer par les classes affaires, pour que vous voyez, que vous dites, ah tiens, ça aurait été bien. Là, vous voyez des gros sièges, les gens sont bien assis et tout, vous dites que, et puis vous avez votre petite chaise, hein, tout serré, vous dites que, ah, j'aurais aimé être à cet endroit, j'aurais aimé être plus loin. Mais imaginez maintenant, excusez-moi, la comparaison est stupide, elle est tellement éloignée, la personne qui est dans les taklir, les difficultés, de l'au-delà, avec sa transpiration, avec la chaleur, on a vu les hadiths, Ibn Kathir dit que celui qui trouve un endroit pour mettre ses pieds, c'est déjà quelqu'un de chanceux. Parce que, makam dayyiq, c'est serré, il n'y a même pas de place. Imaginez le nombre de makhlouqat. Et il n'y a pas que les êtres humains qui sont ressuscités. Les ins, les djinns et les hayawan, les animaux, les génies, les djinns et les êtres humains. Tous ces milliards de créatures sont ressuscités. Dans un hadith on devait faire le mardi dernier sur Gog et Magog, on explique qu'Allah Azza wa Jal a divisé la création en 10. J'ai plus le hadith en tête, je ne veux pas dire de bêtises, mais la race humaine représente 1/10 de la création basse, entre les malaïkas, les djinns et les humains. Donc on comprenne que les autres alam, les autres mondes, comment ils sont beaucoup plus nombreux. Et tous ces gens-là seront là. Toutes ces makhlouqat seront là. Donc, trouver une place pour être debout, c'est déjà un ni'ma, c'est déjà un bienfait. Donc, cette personne qui se retrouve dans les difficultés, parce que de ce dunya, il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait. Il mangeait ce qu'il voulait, il buvait ce qu'il voulait, il s'amusait comme il voulait, il fréquentait qui il voulait. Il voulait prendre du plaisir même sur le plan djinns, sur le plan, charnel, adultère et autres, fornication, il le faisait parce qu'il trouvait cette jeune fille jolie, il draguait la fille, il faisait le zina, il voulait aller avec ses amis en boîte le samedi soir, il le faisait impunément sans jamais craindre le châtiment d'Allah. C'est-à-dire il a vécu comme un homme qui se dit épanoui, intégré, un homme du 20e siècle, etc., etc. Il a vécu comme il voulait. C'est-à-dire comme tout le monde voulait, sauf Allah. Il recherchait le contentement de tout le monde, de tous les regards extérieurs, mais il oubliait le regard de son Créateur. Le jour des comptes, quand il y a de telles taklifs, de telles difficultés, là il va voir qu'il y a des gens qui sont sous l'ombre du trône d'Allah, c'est-à-dire celui qui dirige, celui qui commande la résurrection, celui qui ordonne que les étapes s'enchaînent, celui qui ordonne aux anges de prendre celui-là, de le jeter en enfer, celui qui ordonne aux anges de le prendre, de l'amener par sa main jusqu'au paradis, le faire entrer, bireil et hisab, sans rendre compte. Quand il voit que ces gens-là sont les douyouf, les invités du clément, du miséricordieux, imaginez un nadam. Imaginez la tristesse, les remords qui vont habiter leur cœur et les regrets si seulement de ce dunya on avait vécu conformément aux ordres d'Allah. Donc ce jour est qualifié comme étant Yawmun Azim par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu que quelques exemples de la première étape, la résurrection, cette étape passive où personne n'a à faire quoi que ce soit. Et on avait vu que jusqu'à une certaine... quelques années passées, à un certain moment, les kuffars, ceux qui n'ont pas iman de leur cœur, ils vont être conscients qu'il y a un créateur, qu'il y a Allah au-dessus d'eux maintenant, ils vont demander un doua. Ajib ça, le premier doua d'un kafir. Quel sera ce premier doua du kafir? Il va dire, oh Allah, jette-nous en enfer. Oh Allah, enlève-nous de cette étape, même si c'est pour nous envoyer de le Jahannam, mais oh Allah, enlève-nous de cette étape de la résurrection qui deviendra insupportable. Et tellement insupportable que après des gens, ils vont, les gens pieux, ils vont demander le shafa'a. Le hadith, on connaît, à différents prophètes, Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, etc., etc., ils vont tous refuser l'intercession. Ça, c'est l'intercession pour le Jannah? Non. Ça, c'est l'intercession pour que les comptes, les hisabs commencent. Et enfin, c'est le prophète alayhi salat wa salam qui va accepter d'intercéder auprès d'Allah et il va se prosterner devant Allah Azza wa Jal. Il va l'invoquer par des noms sublimes d'Allah qu'Allah va mettre dans son cœur à ce moment précis. Et là, Allah Azza wa Jal va dire au prophète alayhi salat wa salam, Qum ya Muhammad, wa sal tu'ta, wa sha'a tu shaffa'a, oh Muhammad, lève-toi maintenant. Demande, sal tu'ta. Ajib ça. La rapidité entre les deux mots. Sal, sal, ça vient du mot sa'ala, yas'al, ou demander. C'est l'impératif, al-am, sal. On peut dire is'al aussi. Sal, demande, on te l'accorde tout de suite. Les ulama disent, vous voyez la proximité, vous voyez la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'Allah. Allah lui dit, oh Muhammad, demande, je te donne. Ishfa, tu shaffa, intercède, je t'accorde l'intercession. Ça c'est manzila, le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour des comptes. Et quand nous voyons un homme qui est aussi aimé par Allah, rappelons-le, Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Les gens seront ressuscités auprès du Seigneur des mondes. Il y a celui qui contrôle l'au-delà entièrement, et ce dunya avant tout, et l'au-delà entièrement. Lorsqu'on voit le rang de cet homme auprès de lui, là on se rend compte que c'était lui que j'aurais dû suivre. C'était lui que j'aurais dû écouter. C'était lui que j'aurais dû imiter. Le mode de vie, le comportement, les actions, les sacrifices, la patience. Parce que plus je l'imite, plus Allah m'aurait aimé. Plus un être humain imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus il sera aimé et apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, le prophète va demander le shafa'a et Allah va lui accorder le shafa'a. Et là encore, on répète, ce n'est pas le shafa'a, l'intercession pour entrer au paradis. Non, malheureusement, ce n'est pas encore là. On n'est pas encore à cette étape. C'est l'intercession pour que les hisabs commencent, pour que les comptes commencent et qu'Allah commence à juger les personnes une par une. On expliquait ce hadith aux des élèves de Saint-Clotilde, Moufia, des grands, des 15-16 ans, disaient que Moussa, tout ce temps-là, il reste debout, qu'est-ce qu'il fait? Il y en a qui ont dit, Moussa, on aura faim. Il y avait un peu gros, il dit, on aura faim. Il a dit, on arrive à la tête, pense rien que manger. Mais le jour des comptes, on va penser à manger. Mais non, le jour des comptes, on ne pensera ni à manger, ni au plaisir, ni à s'asseoir là, wallah. Les gens seront dans des angoisses. Et la seule chose qui va préoccuper la personne, c'est est-ce que je vais m'en sortir ou non? Est-ce que Allah va m'accepter, oui ou non? Imaginez, Allah nous protège tous. Allah nous protège, dites amin, d'avance. Imaginez quelqu'un, il fait un IRM ou un scanner, d'accord? Tout le monde a déjà fait un examen de ce type. Même quelqu'un a déjà fait une radio, ne serait-ce, j'ai un radiologue. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Quand on a déjà fait la radio, ils vous disent d'attendre, dans la salle d'attente. Et puis on attend, et ils sont en train de développer les clichés, en train de faire apparaître les images, etc., etc. Et puis le radiologue vous appelle. Vous dites, voilà monsieur, vous avez fait une radio, c'était quoi le problème? Il dit, voilà, j'avais de l'heure ici, j'avais tel, tel. Et puis il va vous dire, qu'est-ce que vous avez? Mais ce laps de temps, c'est 10, 15, 20, 30 minutes, où vous attendez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous savez que dans 30 minutes, il peut vous dire que c'est rien du tout. C'est peut-être un petit traumatisme, une douleur ou une crampe ou je ne sais pas quoi. Ou il n'y a rien, une inflammation, prenez tel médicament. Ou alors il peut vous dire également, monsieur, vous avez une tumeur. Vous avez une tumeur et cette tumeur-là, elle est maligne, c'est une tumeur maligne, cancérigène donc, et allez immédiatement vous faire opérer, vous allez devoir faire la radiothérapie, la chimiothérapie, etc., etc. Peut-être même que le cancer est déjà généralisé. Etc. Toutes, ce sont des éventualités et tout est possible. Au moment où vous êtes assis dans la salle d'attente et tout se passe de l'autre côté, ils sont en train de développer les images qu'il a fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'être humain? Est-ce qu'à ce moment-là, il pense à s'amuser, à envoyer des WhatsApp à ses amis, à aller sur Facebook, à réactualiser son compte? Là, Allah, il est dans le dhikr Allah, dans l'angoisse, s'il a iman de son cœur, il va demander à Allah doua. Mais ce moment-là, vous savez que dans un instant, tout va se jouer. Parce que s'il me dit que j'ai un cancer, c'est fini mes projets. Mes projets de vacances, mes projets de loisirs, mes projets de mariage, de enfants, de famille, de maison, de voiture, de devenir professionnel, tout est remis en cause. Soit définitivement, soit pour des années et des années, le temps que les soins soient terminés. Bref, qu'on comprenne que dans ce genre de moment, on est dans une angoisse extraordinaire. Parce qu'on sait que tout, presque toute notre vie peut changer dans 30 minutes. Mais le jour des comptes, les êtres humains, ils sont angoissés parce que ils jouent pas quelques années là, ils jouent leur khuloud, leur éternité. Et même si on parle pas d'éternité, si c'est quelques temps, ils savent qu'au cas où si Allah n'est pas content de lui, sa destination c'est le Jahannam. Et ça, comme on l'avait expliqué dans Surat al-Buruj, personne ne peut rester, ne serait-ce qu'une seule seconde dans le feu de l'enfer. Et les êtres humains, même celui qui ne croyait pas au Jahannam de ce dunya, le jour des comptes, il va y croire. Pourquoi? Parce qu'il ressent la chaleur. Et deuxièmement, parce qu'Allah va inviter le Jahannam. Allah va faire en sorte que le Jahannam se rapproche de la terre de Mahshar, retenue par des malaïka, avec des salasils, avec des chaînes. Et Allah va faire en sorte que les chaînes s'échappent des mains des malaïka et que l'enfer se déchaîne et que les gens vont être angoissés encore plus, avant encore plus peur. Dans certains riwayats, dans certains hadiths, il est même dit que même les anbiya, les prophètes vont tomber agenouillés devant Allah. Ils vont tomber sur le genou, ils vont demander à Allah, oh Allah, protection, protection contre ceux du Jahannam. Quelqu'un qui a déjà vu tout ça et il sait que l'étape après, c'est quand Allah va décider qui va en enfer, qui va au paradis. Imaginez quel état d'angoisse. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salat wa sallam expliquait dans le hadith que les gens vont être ressuscités hufatan uratan buhma. Les gens vont être ressuscités sans vêtements, sans chaussures, et dans certaines sources on parle également les gens seront ghair martounin. Hein, on retrouve le terme du hadith, si on retrouve urat laysa alayhim thiyab la qamis wa la sarawil. Ghurla, voilà, il y a le terme qui me manquait, hein, hufatan, uratan, ghurla. Ghurla, c'est pour les messieurs, ils seront non circoncis. C'est-à-dire, Allah ressuscite comme on est né. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Comme Allah a démarré la création, Allah va créer les gens de la même façon. Et dans un riwa également, on parle également de buhma. Buhma, c'est celui qui n'a rien. Pas d'argent, pas de rang social, rien du tout. Celui qui se présente devant quelqu'un, les mains vides, les poches entièrement vides. Et pour en revenir au premier terme, hufatan urata, sans chaussures et sans vêtements. Alors, la première question, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait expliqué ce hadith, la première remarque est venue de Aisha radiallahu anha. Et d'après vous, quelle était sa remarque? Sa préoccupation? C'est à propos de quoi? Elle n'a pas pensé à la chaleur ou aux difficultés, elle a pensé à la pudeur. La première question de Aïcha radhiallahu anha, les muhaddithim disent, vous voyez comment la pudeur était la chose la plus importante pour les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dans notre société, avec les courants de pensée modernes, Allah musta'an, plus on arrive à dénuder une femme, plus on lui a donné de la liberté. C'est comme si que la femme, moins elle porte de vêtements, plus elle est émancipée, plus elle est libre. Et plus elle est couverte, c'est une preuve qu'elle est emprisonnée, qu'elle a été travaillée hein, psychologiquement, il y a un lavage de cerveau de son mari, de ses grands-parents, de son frère, etc., que c'est une femme emprisonnée. Et même s'il y a des dames qui ne sont pas mariées, célibataires, mais qui portent le châle, qui se couvrent les cheveux, hein, uniquement par leur propre volonté, pour pratiquer leur religion, on va toujours trouver quelque chose. Il n'y a pas la pression du papa, il n'y a pas la pression du mari, elle n'est pas mariée, il n'y a pas la pression du frère, elle n'a peut-être pas de frère. Elle l'a mis à un moment donné hein, de sa vie, elle a voulu le faire, elle a lu le Coran, elle a compris l'importance de se couvrir les cheveux. Là aussi, on va dire qu'elle a été endoctrinée par le Coran, ou alors elle a été mal, elle a une mauvaise influence. Bref, on essaie de faire vraiment entrer dans les esprits que pour qu'une femme soit libre et émancipée, il faut qu'elle soit le moins vêtue possible. Regardez les publicités, ou alors ne regardez pas les publicités. Je ne sais pas comment il faut le présenter. Pour vendre une voiture, il y aura une femme nue. Enfin nue, c'est-à-dire quasiment nue. Et encore, elle n'est pas toute nue parce que la loi l'interdit. Dans les pubs, la femme porte au moins une culotte et un soutien-gorge parce que la loi l'oblige. S'il n'y avait pas la loi française, elle aurait été complètement dénudée parce que ça ferait sûrement vendre plus. Pour vendre une voiture, femme nue. Pour vendre, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'ils vendent encore? Ils vendent plein de choses. Pour vendre des vêtements, bien sûr. Pour vendre un parfum, voilà. Pour vendre un parfum, femme nue. Pour vendre des petits pois, femme nue aussi. Une fois, il y avait le côté, les grands, l'affiche 4 mètres sur 5 mètres, là, ils vendaient des boîtes de conserve, là aussi, vous en mettez une dame. Na'ouzou billah. Pour vendre des lasagnes au bœuf ou au cheval, une femme nue aussi. Allah musta'an. Et est-ce qu'on est en train de valoriser la femme? Vraiment, quand on parle de liberté, d'émancipation, quand on parle de respect de la femme, mais la femme n'est plus un être humain, elle est devenue un objet publicitaire. C'est-à-dire qu'on utilise l'image de la femme et on impose que pour qu'une femme soit jolie, on donne des règles, même si on ne l'écrit pas, mais à partir du moment où il n'y a que les femmes qui mesurent plus de 1 mètre combien, Noël ? Ah bon, regarde pas, c'est un test ça. À partir du moment qu'il n'y a que les femmes de plus d'un mètre, je dis, 70 qui passent à la télé, et par exemple, s'ils sont dans les quartiers comme ça, il y a un bouton, il y a l'acné, son nez un peu gonflé, elle va passer à la télé. Jamais. Jamais, c'est une insulte pour la télé. Il faut qu'elle soit 1m70, il faut qu'elle ait les cheveux bien, le brushing comme ça, il faut que même si elle est noire, mais trop noire quand même, hein, un noir, un joli noir, d'accord? Il faut que, bref, il y a des normes qui sont fixées, que la personne, la femme qui regarde, c'est une dictature. Que pour être belle, ça c'est la femme qui est belle. Et donc, elle est devenue un objet publicitaire pour faire vendre des voitures, des appartements, des parfums, des sous-vêtements, des vêtements, pour vendre des petits pois, pour vendre à manger, pour vendre des peaux de bébé. Est-ce que c'est ça valoriser une femme? Est-ce que c'est ça l'émancipation? Est-ce que la femme a été créée pour ça? Là, Allah. Et dans la culture, hein, dans les mentalités modernes, d'accord, la femme modèle, c'est celle qui travaille, mais pas forcément celle qui aura un enfant. Ça, c'est pas important. Si elle a décidé de privilégier sa carrière, sa réussite professionnelle, ça, c'est une femme émancipée. Alors que dans notre din, il n'a pas été dit hein, que la femme n'a pas le droit de subvenir à ses besoins, gagne là, Allah. Mais le sharaf, l'honneur de la femme, c'est que elle est mariée avant tout. Pour qu'une femme soit épanouie, elle ne pourra l'être qu'en étant mariée. Et pour qu'un papa donne sa fille en mariage, il faut qu'il regarde bien de qui vient la demande. C'est pas le premier rigolo, le premier clown qui tourne autour de ma fille que je lui donne en mariage. Non. Pas parce qu'il est un gros loto, parce que non. Regardez les qualités de iman. Parce que quand je m'assure que ce prétendant a la foi, c'est qu'il a le comportement d'un musulman, il a le respect de la femme, comme le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est quelqu'un qui aura toujours un comportement exemplaire envers ma fille et envers mes petits-enfants, c'est-à-dire envers leurs enfants. Parce que si c'est un bon musulman, il va faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit que les meilleurs parmi vous, ce sont les meilleurs avec leurs épouses. Wa'ana, et moi je suis le meilleur avec ma famille. Donc, le sharaf, l'honneur pour la femme de l'islam, c'est avant tout qu'elle est mariée. Et que son père lui donne un mariage à un bon mari. Je rappelle également que le mariage forcé est contraire à la sunna. Il y a beaucoup de gens qui pensent que dans l'islam, hein, c'est le mariage forcé. Et ça, il peut y avoir des exceptions dans certaines cultures, dans certains pays où ils font le mariage forcé. Mais même si les gens qui parlent de ça, ils savent que ça ne fait pas partie de la religion, mais s'ils ont trouvé un cas, ils vont mettre des projecteurs dessus pour en faire une généralité. Parce que c'est eux qui détiennent les médias. quand ils veulent mettre les projecteurs et même le microscope sur un grain de poussière et faire passer le grain de poussière comme une montagne, sont capables de le faire et ils le font très bien même, avec tous les moyens modernes dont ils disposent. Donc, le sharaf, l'honneur pour une dame, c'est d'être mariée à un bon mari qui va lui, alhamdoulilah, qui va être respectueux envers elle. Et l'honneur pour une femme, c'est d'avoir des enfants. Ça, c'est le plus grand bonheur, ça. Le prophète alayhi salat wa sallam avait même encouragé que essayez d'avoir de plus en plus d'enfants, car je serai fier de vous le jour des comptes, que ma umma sera la plus grande, la plus étendue des communautés. Ça, c'est sharaf, ça, c'est l'honneur pour une femme musulmane. L'honneur pour une femme musulmane, c'est qu'elle puisse préserver sa haya, sa pudeur, parce que la pudeur fait partie de la foi. Alors que de l'autre côté, Allah musta'an, hein, comme on a dit, plus la femme est dénudée, plus elle sera acceptée. Une femme qui passe dans la rue où tous les messieurs regardent, la siffle, excusez-moi, la mate du pied jusqu'à la tête et tout, mais c'est comme si que ça, c'est une femme qui a tout compris. Na'oud billah. Quelle valeur, quel honneur encore elle dispose. Allah musta'an. Et donc, Aïcha radiallahu anha, elle était choquée par ce que le prophète alayhi salatu wa sallam avait annoncé concernant l'au-delà. Elle dit, le prophète a dit, innakum tuhsharuna yawm al-qiyamati hufatan uratan ghurla. Qalat Aisha radiyallahu anha, ya Rasulallah anha, ya Rasulallah, ar-rijal wan-nisa, au prophète d'Allah, les hommes et les dames ensemble, yanzuru ba'dhuhum ila ba'd. Les gens pourront se voir. Elle avait peur pour sa haya, pour sa pudeur. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ya Aisha, al-amru a'zamu min an yanzura ba'dhuhum ila ba'd. La situation sera telle que personne ne pensera à se regarder mutuellement. Personne ne pensera à se regarder mutuellement. Quand vous êtes dans un endroit serré, dans un bus ou transport en commun ou autre chose, d'accord, et que, excusez-moi, on parle en termes d'être humain, d'accord, en termes d'être humain faible, vous avez une très jolie fille à côté de vous, ou si c'est une dame, il y a un très beau jeune homme sur le siège d'en face. À moins d'avoir un imam très solide, ben, il y a des fois où on va regarder, parce que nous restons des êtres humains, la faiblesse humaine. Mais le jour des comptes, il peut y avoir qui vous voulez, comme je ne sais pas qui, et Inch'Allah, les gens qui ne seront pas bien ne seront pas à côté de nous, parce que en général les gens sont ressuscités par catégorie. Donc Inch'Allah, hein, les gens qui n'étaient pas bien de ce dunya, ils ne seront pas à côté de nous. Donc il peut y avoir qui on veut de magnifique, de beau, d'admirable et tout, proche ou à une certaine distance, personne ne regardera son prochain, ni par rapport à la position de cette personne de ce dunya. C'était une grande star, c'était tel, il n'y a pas de, je vais lui demander un autographe ou je vais être à côté de lui, c'est quel honneur, là, wallah. Ni même par rapport au lien de sang ou de mariage, d'affection. Un mari qui a perdu sa femme depuis 30 ans. Depuis 30 ans, sa femme est décédée, il pense à sa femme du matin au soir. Il pleure du matin au soir. Ou l'inverse, une femme qui a perdu son mari depuis 30 ans et elle pleure du matin au soir. Le jour des comptes, il est possible que son mari soit à côté d'elle. Immédiatement, à côté, à quelques centimètres d'elle. Mais elle ne pensera même pas une seconde à demander son mari quoi que ce soit, ou à lui parler, ou à même le regarder. Mais c'est étrange, ça. C'est illogique par rapport aux sentiments humains. Mais ce sont là les sentiments humains de l'au-delà, qui font oublier toutes les valeurs, tout l'amour, toute la compassion, toute la pitié, toute l'affection qui peut exister dans le cœur d'un être humain. Parce que devant vous, il y a quoi? Le nar jahannam. Et il y a l'angoisse, la peur de ces situations de l'au-delà. Donc, par exemple, Aïcha, les gens seront tellement pris par les difficultés de l'au-delà que personne ne pensera à regarder son prochain. Ah, et dans le hadith également, le prophète alayhi salat wa salam avait dit que pendant, il y a trois situations de l'au-delà où personne ne connaîtra son prochain. Hein, il y avait une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait demandé au prophète d'Allah, est-ce que tu vas reconnaître ta famille, tes proches le jour des comptes? Avec l'espoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire que le jour des comptes, hein, mes proches seront avec moi. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que pendant trois occasions, personne ne connaîtra son prochain. Et parmi ces trois occasions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que près de la balance et au moment de la remise des livrets de comptes, hein, c'est à peu près le sens du hadith, n'est pas le texte sous les yeux, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ces étapes de l'au-delà, dit qu'à ces moments-là, personne ne connaîtra son prochain. Personne ne pensera à regarder ou à se soucier de son prochain. Il n'y aura plus de ikram, il n'y aura plus de générosité, il n'y aura plus de muhabba, de compassion. Donc, hufatan, urata, ni chaussures, ni vêtements, Et Ghurla, comme on a dit tout à l'heure, les mohalidines disent que les messieurs ne seront pas circoncis. Bon, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais juste une petite faïda, quelque chose d'important. Les mohalidines disent que pourquoi est-ce que ce sera cette situation? Il dit parce que dans ce dunya, Allah Ta'ala a rendu cette action sunnah. C'est une tradition de tous les anbiya qu'on retrouve chez les yahoud, chez les juifs également et dans les autres religions, parce que cette action protège la santé de l'homme. La circoncision, le khitan, est une action bénie qui protège l'homme de beaucoup de maladies et principalement ce qu'on appelle aujourd'hui des MST, des maladies qui sont sexuellement transmissibles, d'accord, et beaucoup d'autres maladies. Par rapport aux impuretés, par rapport à tout ça. Et les ulama disent que le jour, dans le paradis, dans le Jannah, l'être humain, et c'est là que ça nous intéresse, l'être humain ne produit plus d'impuretés. L'être humain n'urine plus et ne va plus à la selle. Il n'y a plus d'impureté qui sort du corps de l'homme, donc il n'y a plus de nécessité d'avoir le khitan, d'avoir la circoncision. Et là, ça fait appel à notre foi en l'au-delà, à notre foi en l'invisible. Parce que ça va à l'encontre de toutes les thèses scientifiques. Ça va à l'encontre de la biologie humaine, animale ou quelles que soient les espèces. Parce que de la biologie, tout ce qui rentre doit sortir. Quand un corps consomme, que ce soit un être humain, un animal, un insecte, un mammifère géant ou minuscule, quand il injecte quelque chose, il faut que ça sorte. Ça, c'est le fonctionnement de la vie. Mais c'est le fonctionnement de la vie de ce dunya. Le jour des comptes, on va manger plus qu'on n'a jamais mangé de ce dunya en permanence. Tout ce qu'on voudra, Inch'Allah. Mais il n'y a rien qui ressort, il n'y a pas d'impureté. Donc ça fait partie des lataif, des indications qui, subhanallah, éveillent un peu les consciences et nous font comprendre que ce sont là deux mondes totalement différents. On ne compare pas les deux mondes. Le monde de ce dunya a son mode de fonctionnement. Le monde de l'au-delà a un mode de fonctionnement totalement différent. Donc c'est des gens qui se disent que mais c'est pas possible que quelqu'un subisse autant de punitions, qu'il y ait tel châtiment, ou que quelqu'un ait autant de bienfaits. C'est pas trop logique. Je n'arrive pas à comprendre. Une fois, il y avait un collègue dans une mosquée, il avait fait un discours sur le paradis. Il avait cité le nombre de boissons. Je crois qu'il avait cité plus de 70 boissons, 70 goûts différents dans le paradis. Et il y a des juhal, des ignorants. Nous, on les appelle les juhal, mais eux, ils se disent des intelligents. Ça peut être des intellectuels, ça peut être des gens qui ont fait beaucoup d'années d'études. Ils se sont dit que, arrête, mais ça, arrête de déconner. Donc, 70 boissons. Ichiko, bois jus de fruits, coca, 7-up, bois Sprite, Perrier. Allez, il y en a 15, il y en a 20, c'est tout. Mais il ne peut pas avoir 70. Vous voyez, ce genre de parole, c'est limite avec le coufre, ça. C'est limite avec le coup. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas donner ce genre de détails, parce que si cela tombe dans l'oreille d'une personne qui n'a pas assez de iman, la personne peut renier, peut réfuter ce genre de description alors que ça fait partie du iman. Donc avec une intelligence de ce dunya, on ne comprend pas toujours les situations de l'au-delà, mais ces quelques indications nous font bien comprendre que, subhanallah, il n'y a aucune relation, aucun rapport entre ce dunya et l'au-delà. Allah. Donc, et Bouhma, le dernier terme que le prophète avait utilisé pour qualifier, pour décrire les gens qui seront ressuscités, Hufatan, Uratan, Ghurla, et dans d'autres hadiths, on parle de Bouhma, et Bouhma, قال العلماء, البهم يعني الذي لا مال معه, celui qui n'a rien du tout, qui n'a pas d'argent. Et les muhadithins disent réellement, quelle que soit la situation, quelle que soit la situation sociale, le rang social qui était le nôtre de ce dunya, qu'on soit mort, RMiste, smicard ou multimillionnaire, multimilliardaire, le jour des comptes, nous sommes tous logés à la même enseigne. Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas un endroit pour la résurrection des pauvres, la résurrection des Africains. Il n'y a pas la résurrection du tiers-monde, la résurrection des pays en voie de développement, la résurrection des pays développés, riches, etc. Là, wallah, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas la résurrection pour celui qui avait un compte en Suisse, celui qui avait un compte ici, celui qui n'avait pas de compte, rien du tout. Là, wallah. Les gens sont tous ressuscités, rien. Les mains vides, même plus le kafan. Le kafan aussi n'a pas parti. Et on a expliqué ça aux élèves il y a quelques semaines dans les masa'il. Je ne sais pas si on avait expliqué ça ici. Non, cette petite histoire. Dans les masa'il concernant la manière de mettre le linceul et d'enterrer la personne. Ça veut dire qu'on peut utiliser des petites bandelettes de tissu, des petites bandelettes de tissu pour nouer le kafan, pour nouer le linceul, pour pas que le linceul s'ouvre quand on transporte, quand on dépose de la tombe, etc. Mais dans les massins, il est dit que lorsque le défunt est placé dans la tombe, on doit enlever les bandelettes qui attachaient le linceul. Soit on enlève avant, soit quand il y en a, bref, peu importe. Mais ce qu'on retient, c'est qu'on ne laisse pas les bandelettes avec le kafan. Les ulama disent que, voyez, que quand un être humain meurt, il rentre uniquement avec son kafan. Un homme avec les combien de pièces? Les trois pièces, une femme avec les cinq pièces basses. On ne rajoute rien, même pas un morceau de sparadrap, de scotch, même pas une signature, même pas une bandelette, rien du tout. C'est comme ça qu'on rentre dans la tombe. Quel que soit notre niveau de richesse, quel que soit mon poste de travail, de directeur, de je ne sais quoi, on rentre avec trois ou cinq pièces de tissu, faqat, uniquement, et rien d'autre. Donc ça, ça nous fait prendre conscience que le jour de Qiyama, boum, hein, les gens vont être ressuscités sans rien dans les mains. Et notre passé d'hommes riches, de célèbres, notre argent, nos diplômes, notre famille, nos relations, notre rang social, tout ça, ça fait partie de notre vie, de ce dunya, le jour des comptes. La seule chose qui importe à Allah Azza wa Jal, c'est le iman et les a'mal. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Souvent il y a ces termes qui reviennent de le Coran. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ils auront telle chose, Allah lui promet telle chose, parce que ce sont les deux choses qu'on examine le jour des comptes et rien d'autre. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. On n'avait pas lu, je crois, la traduction. Donc cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités? أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. L'yawmin azim, en un jour terrible, est le verset qu'on a commenté aujourd'hui. Yawma yaqumun nas li rabbil alamin, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Et li rabbil alamin, les mufassirin disent que le Seigneur de l'univers et al-alamin s'englobe tous les mondes. Il dit que pourquoi est-ce qu'on spécifie li rabbil alamin? C'est comme dans Maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Les mufassirin disent que pourquoi est-ce qu'on précise que Allah il est le Malik Yawmiddin? Pourquoi nécessaire de le préciser? Dit que dans ce dunya, il y a des moulouks, il y a des rois, il y a des empereurs. Allah donne le pouvoir, délègue le mulk, la royauté ou le pouvoir ou le imara à différentes personnes. Mais le jour des comptes, il n'y a plus de amir, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus de gouverneur, il n'y a plus d'émir, il n'y a plus de dirigeant. Tous les moulouks, tout le pouvoir revient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, d'où le verset Limanil Mulkul Yawm. Limanil Mulkul Yawm. À qui appartient la royauté? Al Yawm. Et Al Yawm, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire le jour de Qiyama. Lillahi al-Wahid al-Qahar, uniquement Allah, l'unique, uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Et la suite du verset Al Yawm, tujza kullu nafsin bima kasabat, la dhulma al yawm inna Allah sadi'ul hisab. Et quand le verset qu'on vient de citer de sourate Ghafir rappelle que la royauté appartiendra uniquement à Allah, le verset qui suit, c'est donc la conséquence, sachant que toute royauté est uniquement à Allah en ce jour, c'est en ce jour que c'est uniquement Allah qui prend les décisions. Al yawm tujza kullu nafsin bima kasabat, en ce jour chaque personne est rétribuée bima kasabat, en fonction de ce qu'elle aura accompli, de ce qu'elle aura fait. C'est Allah qui rétribue. La zulma al-yawm, et il n'y aura aucune injustice. Parce que de ce dunya, Allah peut accorder le pouvoir à des rois, des empereurs, des ministres, autre chose, et ils font preuve d'injustice. Il y a ça, il n'y a pas. Bien sûr qu'il y a. Il y a des gens qui ont eu le pouvoir de la part d'Allah, et ils dirigent mal, ils font preuve d'injustice, et tout. Mais le jour des comptes, le seul malik, le seul maître, c'est Allah. Et Allah, il ne fait jamais de zulm. La zulm al-yawm. Hein? Et Allah Ta'ala avait dit, hein, un hadith dans lequel Allah Ta'ala dit que Inni harramtu alayya zulma wa ja'altu haramun baynakum fala tadhalamu. Et Allah Ta'ala dit que j'ai rendu le zulm, l'oppression, haram, interdit sur moi-même. C'est-à-dire qu'Allah jamais n'opprime un individu, une créature. Et je l'ai rendu haram entre vous, ô être humain. Fala tadhalamu, ne faites jamais preuve d'injustice entre vous. N'agissez pas mal, injustement donc envers vos prochains. Donc Allah ne fait pas preuve d'injustice. C'est lui qui a la royauté en ce jour. Il rétribue chaque personne. La zulma al-yawm, car inna Allah, c'est-à-dire hisab, Allah est rapide donc dans al-hisab, dans ses comptes. Donc on essaie de se rappeler. Yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin. Et an-nas, c'est tout le monde. Alladhina amanu, ahlul kitab. Ya ayyuhan nasu, tout être humain, toute créature est ressuscité devant Allah et debout lit Rabbil Alamin. Yawma yaqoumun nas, lorsque les gens seront ressuscités, les gens seront qiyam, debout lit Rabbil Alamin, devant Allah, le Seigneur de l'univers. Dans les moments de faiblesse de foi, lorsque j'ai du mal à faire une bonne action, ou alors lorsque je suis tenté par un péché, je dois me rappeler de ce verset Yawma yaqoumun nas lit Rabbil Alamin. Et moi, je fais partie de An-Nas. Oui ou non? Nous faisons tous partie de An-Nas, de les gens. Nous faisons partie de ces gens qui seront debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, le jour des comptes. Et c'est pour ce jour-là que nous nous préparons. C'est pour ce jour-là que nous faisons la salah. C'est pour ces jours-là que nous faisons le sawm de Ramadan. C'est pour ce jour-là que nous lisons le Coran, nous faisons le dhikrullah, nous faisons le hajj. C'est pour ce jour-là que je ne consomme pas d'alcool. C'est par rapport à ce jour-là que je ne consomme pas de stupéfiants, que je ne sors pas avec les filles, que je ne vais pas en boîte de nuit, que je ne fais pas l'adultère, que je ne fais pas, et que je respecte mes parents, etc. Tout ce que je fais, c'est pour être prêt le jour J. On va dire le jour Qaf, le jour Qiyam, pour être aux normes, en subhanallah, pour être respectueux, pour qu'Allah nous accepte, il voit qu'on a respecté ses ordres. L'être humain, il fait les bonnes actions, il s'éloigne des péchés, parce qu'il attend ce jour. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam dit que man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a. Lorsqu'une personne aime rencontrer Allah, c'est-à-dire que lorsqu'un mu'min, il attend la mort. Il dit que mais c'est pas possible ça, quelqu'un il peut pas attendre la mort. Au contraire, les gens ils aimeraient vivre plus. S'ils pouvaient acheter des vies à des années, comme on achète des crédits SFR ou autre chose, ou des points Emirates sur votre carte, on aurait acheté pour vivre plus longtemps. Non. Ça me dit que celui qui aime rencontrer Allah, celui qui est prêt à mourir, qui attend ce moment-là, ahabba Allah liqa'a, Allah aussi aime le rencontrer. Et les muhadithins disent dans quel cas quelqu'un est pressé de retourner auprès d'Allah, c'est quand une personne vit dans l'obéissance. Il vit de la patience aussi. De la patience face aux difficultés de la pratique de la religion. Parce que ce dunya, c'est du nul al-mu'min wa jannatul lil-kafir. Prison pour le croyant. Il y a plein de choses qui sont haram. Il y a des comportements qui vont nous importuner dans notre pratique de la religion. Mais on reste ferme. Wa jannatul lil-kafir, alors que c'est le paradis pour celui qui n'a pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah de son cœur. Donc cet homme-là, il vit dans un sijn. Il vit avec abdiq, avec difficulté, avec l'oppression, avec les problèmes dans la pratique de son dîn. Mais il reste ferme, il marche droit, il essaie de rester ferme, il attend la délivrance. Dans le hadith qui dit que la délivrance du musulman c'est la mort. Alors que pour les koufas, les gens qui n'ont pas la foi, pour eux, la pire des choses c'est la mort. Oh, il est mort trop jeune, il est mort trop tôt, il nous a quittés brutalement, brusquement, beaucoup de Subhanallah. Pour les gens qui n'ont pas la foi, la mort c'est quelque chose de terrible. C'est la pire des choses qui peut arriver à un être humain. Alors que pour le mu'min, c'est la délivrance. Parce que c'est synonyme de retour auprès d'Allah et retour auprès d'un Seigneur qui est, Inch'Allah, satisfait de moi et qui va me faire accéder au plus haut degré du paradis avec grande facilité. Qu'Allah nous accepte d'un tawfiq de comprendre ces quelques paroles, et qu'Allah nous accorde les qualités de iman, les qualités de foi, et que Inch'Allah, par le biais de nos actions, Allah nous choisira pour être à l'ombre de son trône, pour être à l'abri de ses difficultés. Yawma yaqoumun nas li rabbil alamin, le jour où tout le monde sera présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous donne les qualités de iman pour mettre en pratique ces paroles de propager et à nos mères et à nos soeurs. Wa tawfiqi illa billah, subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.